Nous avons chanté, célébré à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons loué pour sa venue. Et je voudrais juste, dans ce temps de méditation de la parole, attirer notre attention sur un fait particulier quand on lit les récits de la nativité. C'est que partout, il est question d'adorer Jésus-Christ. Quand on lit dans l'évangile de Luc, on voit Zacharie qui adore, on voit Marie qui adore, on voit Élisabeth qui se réjouit, qui adore, on voit des bergers qui adorent, des anges qui adorent, on voit Siméon qui adore, on voit Anne qui adore. Et quand on regarde dans l'évangile de Matthieu, on voit aussi des mages qui adorent. Et la particularité de l'évangile de Matthieu, c'est que ici, dans le récit de la nativité, il met en contraste deux attitudes. Quand même, il y a l'adoration, mais il y a aussi le rejet de Jésus-Christ. Et je crois que ce soit à sa naissance ou durant sa vie ou concernant sa mort, sa résurrection, son ascension, son retour, les questions qui concernent Jésus ne laissent jamais indifférent. Et quand on lit les récits de la nativité, il s'agit d'adorer ou de rejeter Jésus, et surtout particulièrement dans l'évangile de Matthieu. Alors nous avons étudié le texte de Matthieu il n'y a pas très longtemps avec le frère Jean-Pierre, mais je vais vous proposer de le reprendre. Nous n'allons pas le réétudier comme ça a été fait, c'est-à-dire si vous voulez vraiment une étude détaillée, je vous renvoie à cette étude, mais nous voulons juste regarder cet aspect, ce contraste entre le fait d'adorer et le fait de rejeter Jésus-Christ. Et Matthieu dit un certain nombre de choses dans tout son évangile, et aussi il le dit dans le texte de Matthieu chapitre 1 que je vous demande. Matthieu chapitre 2, pardon, que je vous invite à prendre. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Nous allons lire ces 12 premiers versets. Matthieu chapitre 2. Et voir quelques éléments de ce que Matthieu dit concernant Jésus et quelle implication cela a pour nous. Matthieu chapitre 2, à partir de verset 1, il dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Roi d'Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, et jusqu'au moment où arrivait au-dessus de du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, donc il est clair qu'il est question d'adoration hein, dans ce texte, parce que les tout premiers versets, verset 2, dit déjà « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Hérode lui-même dit « Prenez des nouvelles sur le petit enfant, puis afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Et le verset 11 nous dit « Quand les mages trouvent l'enfant, eh bien, il l'adore et il lui offre des présents. » Mais ce que nous voulons voir ici quand même, c'est quelques pensées concernant Jésus-Christ et le fait de l'adorer ou de le rejeter. Jésus, objet d'adoration ou de rejet. Et Jésus est toujours l'objet d'adoration ou de rejet. Juste premièrement, deux ou trois choses que Matthieu montre ici, c'est que Jésus est le roi qui est universellement digne d'adoration. Notez la question posée par les païens, les non-juifs ici, hein, les mages. Ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et la première chose qui est dite des mages, c'est leur intention d'adorer ce roi-là. Et c'est ce sur quoi Matthieu insiste. La première chose qu'il montre, c'est que ces gens qui viennent de très loin, ils viennent pour adorer ce roi qui est un juif ici. Nous sommes venus pour l'adorer. C'est la raison de leur venue. Et c'est ce qu'ils vont faire au verset 11, on l'a dit. Hein, la Bible dit qu'ils se prosternent et ils l'adorent. Ils lui offrent des présents, de l'or, hein, qui est un métal précieux, qui a trait à la royauté, de l'encens, ce qui était utilisé par les prêtres pour l'adoration, et puis aussi la myrrhe qui rappelle l'embaumement de Jésus. Hein, par exemple, Nicodème vient prendre Jésus, bien, il est question d'utiliser de la myrrhe et de l'aloès, par exemple. Hein. Donc, ici, on voit qu'ils viennent pour l'adorer, ils le font en reconnaissant sa royauté, mais en reconnaissant aussi le fait qu'il est celui qui est né pour mourir hein, et qui va offrir aussi sa vie. Tout cela, ils l'intègrent et ils le font. Mais Matthieu ne parle pas ici des bergers, Matthieu ne parle pas de Anne, il ne parle pas de Siméon. Et son intention est très claire, c'est de montrer que ce Jésus juif doit être aussi adoré par des non-juifs. Que ce Jésus juif doit être adoré par des non-juifs. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, non seulement des Juifs, mais aussi de toutes les nations qui sont représentées ici par les mages. Donc Jésus n'est pas seulement pour les Juifs. Et cette vérité est soulignée dans l'évangile de Matthieu, à plusieurs points, mais je vais vous en lire deux, par exemple, où il dit, en Matthieu 8, verset 11, il dit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Plusieurs viendront, il dit, de l'Orient et de l'Occident, de toutes les extrémités de la terre ici. Et puis à la fin de son évangile, Matthieu rapporte ce que Jésus a dit quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Faites de toutes les nations, qu'elles soient juives, qu'elles ne soient pas juives. Et quand on lit l'Ancien Testament aussi, hein, on trouve cette vérité qui est annoncée, le caractère universel du Messie qui devait venir. En Ésaïe 60, verset 3, par exemple, il y dit « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Et donc cet accès, on pourrait dire aux païens, cet accès aux nations est une preuve que Jésus est bien le Messie qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Matthieu le souligne, il dit « Les nations viennent vers lui, n'est-ce pas ?» Et l'Écriture annonce déjà que ce Jésus, il est aussi destiné aux nations. Alors certains parfois se cache derrière le fait que Jésus est juif et pour le rejeter. Pourquoi ? Voilà, c'est quelque chose qui concerne un peuple en particulier et ça n'est pas pour nous. Mais on voit dans ce texte, et Matthieu le montre clairement et le Saint-Esprit veut nous le montrer, que des gens qui viennent d'un pays lointain ont entamé un long voyage pour adorer ce roi juif. Et ce roi juif était aussi pour eux. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs. C'est ce qu'il veut dire. Et l'apôtre Paul le dit clairement dans l'épître aux Romains, pas si vous vous souvenez de ça, mais en Romains chapitre 3, versets 29 et 30, je vous lis, il dit ceci, « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis, c'est-à-dire par la foi les Juifs et par la foi les païens. Dieu est aussi le Dieu des païens. Et ça, c'est une vérité que nous devons souligner, parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes rejettent Christ sous prétexte que, bon, voilà, il a été donné aux Juifs, il n'est pas pour nous, c'est une affaire qui concerne une autre nation. Pourquoi il n'est pas venu, c'est pas moi, chez les Martiniquais, pourquoi il n'est pas venu en tant que, c'est pas moi, autre Français ou que sais-je. Non, même si les Juifs, l'Écriture souligne, et Matthieu souligne avec l'histoire de ces mages, que Jésus est digne, et il est le roi universellement digne d'adoration. Il a été donné pour toutes les nations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ici que je voudrais souligner, qui montre que Jésus, Christ, suscite inévitablement l'adoration ou le rejet. Jésus-Christ suscite inévitablement l'adoration ou le rejet. On voit dans ce texte deux attitudes. D'une part, l'adoration des mages. Et on a dit qu'on a vu dans l'évangile de Luc beaucoup l'adoration des bergers, des anges, de Siméon, de Anne et d'autres personnes. Et donc Matthieu souligne cette adoration, mais aussi il souligne le rejet d'une certaine partie de la population, particulièrement le rejet d'Hérode et le rejet des chefs religieux, et puis d'une bonne partie de la population de Jérusalem. Et donc l'attitude de rejet, on pourrait dire ici, est soulignée par deux choses, par deux sous-attitudes, j'ose dire. Premièrement, par l'indifférence, ici, de la part des chefs religieux. Ils ont, on le voit clairement, une connaissance précise du lieu où Jésus devait naître, du lieu de sa naissance. Ils peuvent indiquer à Hérode très facilement à quel endroit le Christ devait naître, mais ils ne semblent pas bouger malgré cela. Ils semblent froids, ils ont plein de connaissances, mais ils restent indifférents. Ils sont froids. Ils ne viennent pas, ils ne partent pas avec les mages pour voir même est-ce que c'est bien ce Messie qui était attendu, etc. Ils connaissent les textes, ils attendent, entre guillemets, le Messie. Mais quand ils sont mis devant le fait que quelqu'un est désigné comme le roi des Juifs, comme ce Messie qui devait venir, ils demeurent indifférents. Jérusalem est troublée, mais eux, ils ne semblent pas perturbés. Et c'est pour eux un non-événement, cette histoire. Ils ne croient pas que c'est le Messie. Ils ne sont même pas intéressés à vérifier quoi que ce soit. Rien ne les fait bouger, même pas la détermination et la ferveur des mages qui ont entrepris un très long voyage pour venir adorer Jésus. Donc c'est un rejet par indifférence. Mais il y a aussi un rejet que l'on voit ici, c'est le rejet d'Hérode par hostilité ouverte, on pourrait dire. C'est une autre forme de rejet. Elle est un peu plus active, on pourrait dire, que l'indifférence. C'est un rejet qui consiste à éliminer physiquement Jésus ou à chercher à le faire. On cherche à détruire ce qui dérange systématiquement. Et on trouve ce type de rejet dans notre société, dans notre monde encore aujourd'hui. On cherche à éliminer toute trace de christianisme, toute trace de Christ, dans toute référence même à Christ, même à Noël, on cherche à effacer toutes ces toutes ces références ici. Et donc, on voit Hérode qui, sous prétexte de vouloir adorer Jésus, eh bien, est en train de manigancer de manière extrêmement fine comment il pourrait éliminer Jésus. Et on voit au verset 13 ici, ce qui est dit, lisons le verset 13, il dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Voilà. Ça, c'est une information qui vient du ciel. Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Et au verset 16, on voit ceci, c'est que Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met dans une grande colère et il envoie tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem. Et tout son territoire, dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Et pour être sûr de ne pas le rater, eh bien, il détruit, d'accord, 2 ans et tout en dessous. Comme ça, il est certain qu'il ne va pas rater Jésus. Il pense qu'il peut renverser le Messie. Mais quelle folie, hein ? Quelqu'un disait, si ce n'est pas le Messie, c'est facile à faire. Si c'est le Messie, personne ne peut le détruire. Donc c'est une chose impensable, même pour Hérode, de croire qu'il pouvait éliminer le Messie. C'est une chose impensable pour les hommes de croire qu'ils peuvent éliminer Christ, qu'ils peuvent éliminer Dieu dans tout ce qu'ils font dans notre société. C'est simplement impossible. Ainsi, Jésus suscite, on peut le voir ici, inévitablement, adoration ou rejet. Les bergers, Siméon, Anne, toutes ces personnes, les mages ont adoré, mais les principaux sacrificateurs l'ont rejeté. Et l'Écriture souligne ailleurs que Christ met toujours une division quelque part. Soit on vient vers lui dans l'adoration, soit on le rejette. Mais il n'y a pas de point milieu. Il n'y a absolument pas de point milieu. Même Siméon, quand il parle à Marie, vous vous rappelez, quand il adore Jésus, quand il a l'enfant dans ses bras, il dit ceci dans une prophétie, il dit « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. » Et c'est comme cela que Dieu a voulu les choses. Il est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, ici. Et on peut voir le rejet dont Christ a été l'objet de la part des Juifs, bien sûr, très nettement à son époque. Mais on peut aussi voir le rejet dont il est l'objet encore aujourd'hui à notre époque. Et les paroles de Siméon, je crois, sonnent avec une grande vérité, une grande résonance à nos oreilles. Christ est encore aujourd'hui une occasion de chute pour plusieurs. Mais il est aussi une occasion de salut pour plusieurs. Ou on l'adore, ou on le rejette. Et ceux qui ne l'adorent pas le rejettent. C'est ainsi que l'Écriture désigne les choses. L'évangile du salut force toujours à prendre position, ou pour Christ, ou contre lui. Et Jésus disait qu'il n'est pas contre nous, est avec nous, mais qu'il n'est pas non plus avec nous, hein, est contre nous. Donc face à Christ, les hommes doivent décider de croire ou de rejeter. Et les textes de Noël le montrent très clairement. Le texte des mages le montre très clairement. Face à Christ, annoncé même dans sa toute enfance comme le roi, eh bien, il y a une décision à prendre. Ou on entreprend une démarche qui va vers l'adoration, ou on le rejette. Soit par indifférence, soit par hostilité ouverte. Je me souviens qu'on avait fait cette série d'études avec un frère dans l'évangile de Jean où on voyait, on avait vu qu'il y avait tout dans l'évangile de Jean, cette pensée qui était soulignée du fait que Jésus est le sauveur qui divise. Il divise soit on vient de son côté, soit on s'en écarte. Et donc, Siméon dit que les pensées de cœur de beaucoup seront dévoilées lorsque Christ viendra. Et l'évangile dévoile vraiment les pensées du cœur des contemporains de Jésus, mais du cœur de nos contemporains aussi aujourd'hui. Il y a des personnes qui paraissent parfois gentilles, très paisibles, très bien dans leur personne, et c'est vrai. Et dès qu'on leur parle de l'Évangile, eh bien, on sent qu'il y a quelque chose qui se dresse tout de suite. Et cette gentillesse se transforme parfois en une aversion à l'égard de Christ. On pourrait parler avec elle d'autres sujets, ça ne gênerait pas, ce serait la pure indifférence. Mais quand on parle de Christ et qu'on insiste un peu, eh bien, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui est parfois de la forme du rejet. On ne veut pas de Christ. Comme disait dans l'Écriture, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est un petit peu l'attitude naturelle qu'il y a dans le fond du cœur. Mais aussi, on voit qu'il y a d'autres qui sont attirés vers Christ, comme ces mages, comme ces bergers, comme Anne, et qui sont dans une attitude d'adoration. Donc oui, on peut dire très nettement que Christ, Jésus-Christ, suscite inévitablement ou adoration ou rejet. Et puis, troisièmement, on peut souligner aussi ceci dans cette histoire que Matthieu raconte, c'est que Dieu conduit, d'accord, à l'adoration de Christ par des moyens divins. C'est Dieu qui conduit à l'adoration de Christ par des moyens divins. On apprend que les mages sont venus à Jérusalem car ils ont vu une étoile en Orient. Et Matthieu ne donne pas d'explication sur qu'est-ce que c'est que cette étoile. Il n'indique pas de quelle taille elle était, de quelle luminosité elle était, etc. Comment est-ce que, à partir d'une étoile, ils ont pu savoir qu'un roi juif est né quelque part et que c'était le Messie. Enfin, il ne dit pas tout ça parce que ce n'est pas ce qui est important pour lui. Et on va laisser donc les spéculations à ceux qui aiment faire des spéculations, qui aiment embellir les détails, trouver des noms aux mages, etc., à trouver des noms à leurs animaux, trouver le nombre dont ils étaient, etc. Matthieu ne se penche pas dans ces détails-là. Ce qui l'intéresse est ailleurs. Et ce qu'il veut souligner ici clairement, c'est qu'on est conduit à Jésus de manière divine. Et que c'est Dieu qui conduit à Jésus. On le voit dans l'évangile de Luc, dans les textes de l'Annonciation, des anges viennent voir des bergers pour indiquer ce qui se passe. On le voit pour Marie, on le voit pour Zacharie, on le voit pour Siméon, il est poussé par l'Esprit dans le temple. Et c'est toujours Dieu qui agit pour pousser vers Christ. Et il emploie pour cela des moyens divins, parfois surnaturels, comme cette étoile qui a conduit ses mages, et parfois de manière toute naturelle, de manière providentielle. On voit tout ce qu'il a fait quand on lit l'évangile de Luc, comment César Auguste a ordonné un recensement de toute la terre pour que, etc. Et Dieu œuvre dans l'univers tout entier. Il est capable de bouger un roi pour lui faire prendre une décision, de même que de bouger une étoile pour mettre en mouvement des mages qui se situent à des milliers de kilomètres de là où Jésus est né. Et pour amener les hommes à l'adoration de Christ. Au verset 12, on apprend que les mages ont été divinement avertis. Donc voilà comment Dieu agit. On voit la main de Dieu qui guide. C'est Dieu qui conduit vers Christ. Et Jésus le dit dans Jean 6, 44, qu'il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il dit que c'est le Père qui attire toutes ces personnes vers Christ. Et la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs dans l'évangile de Jean. Et il conduit les adorateurs, à la fois juifs, mais aussi les non-juifs, vers Christ. Et il le fait de manière divine. On peut souligner qu'il le fait à travers des éléments qu'on peut trouver de la nature, mais plus particulièrement, lorsqu'il faut précisément arriver à Christ, il conduit toujours à travers les Écritures. Il conduit toujours à travers les Écritures. Les mages arrivent à Jérusalem. D'accord? Alors, le texte ne dit pas qu'ils arrivent en suivant une étoile. Il dit qu'ils ont vu une étoile en Orient. Et puis, ils sont partis. Donc, on peut supposer qu'entre cet instant-là et après, il n'y a pas d'étoile. Ils sont allés sur la base de cette information divine qu'ils ont reçue. Mais quand ils arrivent à Jérusalem, eh bien, on voit qu'il faut aller à l'Écriture pour savoir où se trouve précisément Jésus-Christ. D'accord ? Hérode fait venir les mages, les scribes, on trouve ça au verset 3. Hérode ayant appris cela, verset 4, il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informe auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et on voit qu'on arrive précisément à Christ, et Matthieu le montre, par l'Écriture. Déjà, Matthieu souligne, si vous lisez l'évangile de Matthieu, il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament où il dit « il est écrit, car il est écrit, selon qu'il est écrit concernant Jésus » parce qu'il veut que les Juifs sachent que ce Messie, ce Jésus historique qui a vécu, eh bien, c'est celui qui a été annoncé par tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, il rattache à chaque fois le fait que ce qui se passe selon ce qui a été écrit ici. Et quand on cherche Christ, il faut le chercher dans l'Écriture. C'est ainsi que Dieu veut que l'on arrive à Christ. On n'arrive pas à Christ par des moyens qui nous sont propres. On arrive à Christ par les moyens que Dieu a choisis pour que l'on arrive à Christ. Toujours. Et l'Écriture est le moyen le plus sûr et le moyen nécessaire pour arriver à Christ. Il peut utiliser des moyens surnaturels, mais il utilise in fine ces moyens surnaturels pour conduire à la parole de Dieu qui conduit elle-même à Christ. Il n'y a pas de possibilité d'arriver à une connaissance de Jésus-Christ autrement que par les Écritures. Si vous cherchez Christ ailleurs, vous ne le trouverez pas. Si vous le cherchez par vous-même, en dehors de l'Écriture, vous ne le trouverez pas non plus. Jésus-Christ se rencontre par les moyens que Dieu a fixé et a mis à notre disposition. Même Jésus, lorsqu'il explique à des hommes comment le trouver, il le fait à travers les Écritures. Rappelez-vous, après la résurrection, lorsqu'il parle aux disciples d'Emmaüs, qui sont troublés parce qu'ils ne comprennent pas que cet homme qu'ils pensaient être le libérateur, voilà, il est mort, etc. Et Jésus veut leur enseigner des choses concernant sa propre personne. La Bible dit qu'il commence par les prophètes et les psaumes et il leur montre tout ce qui le concerne. D'accord ? Jésus utilise l'Écriture pour enseigner ce qui le concerne lui-même. Donc il est impossible d'arriver à lui autrement que par les Écritures. Il disait dans Jean chapitre 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il parlait de l'Ancien Testament. Ils sont l'Ancien Testament. Ils cherchent la vérité dans l'Ancien Testament. Et il dit, « Vous pensez même avoir la vie en elles, mais ces Écritures rendent témoignage de moi. » Et l'Écriture, c'est ce que Dieu nous donne, c'est le moyen que Dieu nous donne pour que nous puissions arriver à la connaissance. Donc, ce que nous dit, ces trois points, c'est les trois seuls que je veux développer ce matin, nous dit ce passage de Matthieu, c'est que Jésus, c'est le roi de toutes les nations. Et Dieu veut que toutes les nations l'adorent. Et c'est le message que nous voulons donner aussi à Noël. Et il dit ici que Jésus, il montre ici que Jésus, on l'adore ou on le rejette. Mais on ne peut pas être totalement indifférent et neutre. Soit on l'accepte, on vient vers lui dans l'adoration, ou soit on le rejette. Et il faut faire un choix face à ce roi des Juifs qui est né il y a près de 2000 ans. Jésus est le sauveur du monde. Et puis il dit que aussi que ce Jésus-là ne peut se rencontrer qu'à travers les Écritures. Il faut venir, il faut lire, il faut placer sa confiance dans les Écritures pour le rencontrer véritablement. Il faut croire à ce que disent les Écritures pour arriver à Christ dans une véritable adoration. Les mages, ils ont cru à ce qu'ils ont vu, ils ont cru à ce qu'on leur a dit des Écritures, ils sont allés, ils ont rencontré Christ et ils ont pu l'adorer véritablement. Ils ont pu l'adorer véritablement. Alors je termine avec ces quelques petits mots de conclusion ici. Ce texte nous dit, je le dis encore une fois, il n'y a que face à la révélation de Jésus, chaque fois que Christ se révèle, que ce soit à sa naissance, que ce soit maintenant quand on nous le présente, il n'y a que deux attitudes, le rejet ou l'adoration. On peut le rejeter avec la connaissance. On peut le rejeter avec même, en ayant même beaucoup de connaissances. Et la connaissance seule ne conduit pas à l'adoration de Christ. On le voit ici dans ce texte. La grande connaissance concernant Christ, et ça c'est ce qu'on peut voir avec les scribes et les principaux sacrificateurs, la grande connaissance concernant Christ n'implique pas la connaissance de Christ avec le cœur. Ici. On est surpris, on a dit, de la sécheresse des scribes. Ils peuvent trouver facilement où Jésus devait naître. Ils connaissent par cœur les textes, mais ils restent inertes lorsque qu'on leur annonce sa présence. Ils ne se sont pas rendus à Bethléem. Alors, est-ce votre cas ce matin? Vous avez peut-être beaucoup de connaissances bibliques. Vous avez appris des versets dans votre jeunesse. Vous n'êtes pas perdu quand il s'agit de trouver un texte dans la Bible ou n'importe quel passage dans la Bible. Mais est-ce qu'il y a dans votre cœur un élan vers Christ? Un élan dans l'adoration de Christ? Est-ce que vous le recherchez comme ces mages l'ont recherché? Voilà. Est-ce que vous en parlez comme Anne en a parlé? Est-ce que vous le prenez comme Siméon l'a pris? Est-ce que vous le chantez comme les anges l'ont chanté? Ou est-ce que vous dites, oui, je connais ces choses, mais moi, ça me laisse froid. Lorsque vous voyez des personnes qui étaient loin de la foi, sans connaissance, sans même la connaissance que vous avez, et qui se tournent vers Christ, et vous voyez véritablement les changements dans leur vie, vous voyez la ferveur qu'ils ont vers Christ, est-ce que ça vous laisse, comme ces scribes, froid? Ou est-ce que vous vous dites, non mais il y a quelque chose là, il ne faut pas que je loupe cela. Vous voyez, la connaissance, c'est une chose, elle est importante, mais la connaissance toute seule ne conduit pas à la froid en Christ. Il faut à la connaissance de Christ avec le cœur. Il faut croire dans ses paroles. Il faut y attacher la foi. Il faut y mêler la foi comme la Bible le dit. Une deuxième chose dans cette conclusion que je voudrais souligner ici, c'est que ce qui est important, c'est ce que l'on fait avec la connaissance que l'on a. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de connaissances, on le voit de la part d'images, mais c'est ce que l'on fait avec même la petite connaissance que l'on a de la vérité, de la révélation. Je veux le dire comme ça, ce n'est pas la quantité de révélation qui est quelque chose, mais ce que l'on fait avec la révélation qui est disponible. Les mages ont agi avec ce qu'ils avaient à leur disposition. Si on compare la somme de leurs connaissances à celle des scribes, comme on dira, il n'y a pas photo, il n'y avait pas d'égalité entre eux. Mais les scribes, eux, n'ont rien fait de cette révélation. Ils savaient la classifier, ils savaient l'enseigner, ils savaient la retrouver au bon moment, ils savaient la sortir dans le temps approprié, mais ils n'en ont rien fait de manière salutaire. Alors, est-ce que vous cherchez Christ? En cette période de Noël, est-ce que vous le cherchez, lui? Jérémie dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Les mages ont cru que Jésus était un enfant, certes, mais qu'il n'était pas qu'un petit enfant. Ils n'ont pas dit, attendons qu'il grandisse, qu'il parle, que l'on pèse son enseignement et que l'on voit véritablement si il est vraiment le Messie. Ils ont cru à ce que le Seigneur leur a donné comme révélation, même faiblement. Ils ont cru et ils se sont mis en marche avec le peu de connaissances que Dieu leur a donné. Et la foi, en général, n'exige rien de plus que ce qui est révélé. Parfois, il y a des gens qui disent « Oui, moi, la Bible dit ça, mais j'aimerais bien trouver par un autre chemin des choses, faire un peu d'approfondissement, d'aller voir, etc. » Quand la foi est là, elle ne demande rien de plus que ce que Dieu révèle. Le brigand sur la croix n'exige pas de voir le palais et la couronne pour confesser la royauté de Jésus. Il dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Alors que Jésus était dans son état le plus bas. Il n'a pas demandé à voir, il a cru qu'il est. Et c'est ainsi que Dieu veut que l'on s'approche de lui. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ici. Vous savez, nous avons bien plus que les mages. Nous avons bien plus que les scribes. Nous avons bien plus que Hérode. Nous avons bien plus que Marie. Nous avons bien plus que Joseph. Nous avons bien plus que Siméon. Nous avons bien plus que Anne. Nous avons bien plus que les bergers. Nous avons infiniment plus que les brigands sur la croix. Et probablement bien plus que beaucoup de personnages bibliques dont nous avons lu l'histoire dans les Écritures. Et la question qui se pose à nous, c'est que faisons-nous de ce plus, de cette révélation complète et disponible que nous avons dans la parole de Dieu? Sommes-nous indifférents, froids, familiers? Nous connaissons, nous lisons, mais nous n'allons jamais à Christ avec ce que nous lisons. Sommes-nous, ou êtes-vous, hostiles même? Ça se pourrait que dans cette salle, il y ait des gens qui soient hostiles à Christ, d'une certaine manière, qui l'effacent de leur vie, qui prennent toutes leurs décisions sans lui, ici. Ce que nous connaissons nous pousse, est-ce que cela nous pousse vers le Seigneur pour l'adorer et pour lui offrir, pour nous offrir à lui, ou exigeons-nous encore d'avoir plus? Il manque un petit quelque chose, comme si j'avais ceci, si j'avais cette connaissance supplémentaire, il y a des choses qui manquent dans tout cela, il y a des choses qui ne tiennent pas debout, etc. Je viendrai bien à Christ, mais il manque encore des choses à ma connaissance. Si vous ne croyez pas, la Bible dit, à ce qui est écrit, vous ne vous laisserez pas persuader, quand bien même des milliers de preuves viendront à s'accumuler par-dessus celles-ci. C'est exactement ce que Abraham a dit à l'homme riche, vous vous rappelez, qui dit « Envoie Lazare pour qu'il voie mes frères sur la terre, ils verront quelqu'un de ressuscité et ils diront « Ah ouais, ça c'est vrai maintenant. » Eh bien, ils avaient à l'époque moins que nous quand Abraham dit « Ils ont Moïse et les prophètes. » Il n'a pas dit « Ils ont Moïse, les prophètes, Matthieu, Marc, Luc, les Épîtres, Paul, Hébreux. » Il n'a pas dit ça. Il a dit « Ils ont Moïse et les prophètes. » Donc, ils avaient bien moins que nous. Il dit « S'ils ne croient pas ce que Moïse et les prophètes disent, ils ne croiront pas. Quand bien même, quelqu'un ressusciterait des morts pour leur dire des choses. » Et pour nous, on pourrait dire que nous ne croirons pas davantage quand bien même d'autres preuves viendraient s'accumuler par-dessus celles-ci, si nous ne croyons pas à ce qui est révélé. Et nous avons la révélation complète de Christ. Donc en ce temps de Noël, ce que Matthieu nous invite à faire, c'est de venir et d'adorer celui qui est le roi. C'est le seul. Il n'y a pas de salut en quiconque d'autre qu'en Jésus-Christ. Il est le sauveur de tous les hommes, du juif et du non-juif. Et c'est à lui qu'il faut venir pour être sauvé. C'est une affaire cruciale Hein, ça n'est pas des informations. Noël n'est pas un temps où on s'informe simplement de la venue de Christ. Noël est un temps aussi où on doit se tourner vers Christ parce que ce bébé, cet homme qui est venu, ce roi qui est né, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné. Et l'Épître aux Hébreux dit qu'il s'est incarné afin de détruire la mort, n'est-ce pas, et de délivrer ceux qui étaient dans la servitude par crainte de la mort. Le Fils de Dieu est venu, dit l'Épître aux Jean, pour détruire les œuvres du diable. Et c'est pour cela qu'il est venu. Quand nous pensons à Noël, nous ne pouvons pas le dissocier de la raison pour laquelle Christ est venu et du fait que nous devons prendre la décision de placer notre confiance en lui, l'adorer pour l'adorer ou de le rejeter. Mais on ne reste pas indifférent. Puisse le Seigneur incliner nos cœurs pour qu'il soit comme celui des anges, des mages, de Anne, de Siméon, des bergers, de Zacharie, d'Élisabeth, et qu'il ne soit pas dans le rejet comme ayant ceux qui ont de la connaissance et qui le rejettent, ou ceux qui lui sont comme Hérode, hostiles. Que le Seigneur nous guide et nous aide. Prions. Nous te demandons, Seigneur, que ta parole, ce matin, nous transforme. Tu connais nos cœurs et tu sais comment nous sommes dans notre vie de tous les jours. Et nous te prions que nous ne te chantions pas simplement avec nos lèvres, mais que nos cœurs puissent être attirés à toi dans une véritable adoration. Nous te prions que par ton esprit, tu touches, tu délivres encore ce matin même. Seigneur, que tu arraches des âmes, des ténèbres dans lesquelles elles se trouvent pour les amener à toi. Oh, nous te louons, nous te remercions parce que tu es venu. Et tu es venu pour que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance. Merci de faire de nous ceux qui te reçoivent, tes adorateurs. Merci pour cette grâce, la grâce de te connaître. Et la joie, comme nous l'avons chanté ce matin, la joie de savoir que nous sommes pardonnés. Merci encore parce que tu n'es pas le Dieu, le Seigneur d'une petite catégorie, d'un groupe ethnique, mais tu es le Dieu de tous les hommes. Le Sauveur de la parole le dit de tous les hommes, qu'ils soient juifs ou non juifs. De quelque lieu qu'ils habitent, tu es venu pour eux, pour les sauver. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs ainsi et que partout sur cette terre, ta parole puisse être annoncée pour que les âmes puissent connaître la joie de Noël, la joie de t'appartenir. Nous te demandons ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.